Merci Seigneur Jésus pour cette grâce de Noël dans laquelle nous vivons encore actuellement, cette grâce de ta présence simple dans cet enfant, cette grâce de ta manifestation et à travers toi la manifestation du Père dans l'Esprit Saint, pour que soit manifesté l'amour infini dont tu aimes le Père et l'amour infini dont le Père t'aime et nous aime. En toi. Du psaume 34, entre parenthèses 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le psalmiste visiblement a vécu une action forte du Seigneur dans sa vie, cela l'amène à vouloir bénir le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Dans l'Évangile, quand Jésus guérit, on voit souvent après, à la fin de la guérison, que les gens qui ont vu cette guérison louent le Seigneur et rentrent dans la joie, et l'action de grâce pour ce qu'ils ont vu, pour la personne qui a été guérie. Nous sommes appelés à bénir le Seigneur au ciel, nous passerons notre temps à bénir le Seigneur et ce ne sera pas une lourdeur ou quelque chose qui est difficile, ce sera vraiment une joie profonde de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie de tout homme. Et sans cesse nous aurons cette louange du Seigneur à nos lèvres, avec tous les anges, tous les saints. Et nous sommes invités à commencer déjà cette louange du ciel sur la terre, à le bénir aujourd'hui, où ce n'est pas toujours facile. Évidemment, on n'a pas envie de bénir le Seigneur, parce qu'on est dans l'épreuve, on est dans l'angoisse, dans les soucis, on est dans les doutes. Et c'est plus difficile à ce moment-là de bénir le Seigneur. Mais c'est pourtant une force de bénir le Seigneur, même quand ça va mal, parce que la louange, c'est la meilleure manière pour que le Seigneur puisse agir dans nos vies par la louange. Nous ouvrons notre cœur au Seigneur. Il y a un livre que j'ai lu qui m'a aidé à entrer dans le renouveau charismatique, qui a été à la source de toute la conversion que j'ai vécue et tous les changements que j'ai vécus et toutes les grâces que j'ai reçues. C'est un livre d'un protestant qui s'appelle Merlin Carothers et qui a écrit « La puissance de la louange ». Je pense qu'il est encore édité, je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre qui m'a complètement retourné. Voilà, je bénirai le Seigneur. La louange est puissante. Elle est puissante pour venir ouvrir notre cœur à l'action de Dieu et voir son action dans nos vies. Je me glorifierai dans le Seigneur, dit le psalmiste encore, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Voilà, le psalmiste voudrait que tous les pauvres soient en fête avec lui. Pourquoi les pauvres? Parce que lui-même est pauvre. Lui-même, il a vécu des épreuves. Ces épreuves l'ont appauvri. À travers les épreuves, nous sommes appauvris. Et de quoi nous sommes appauvris? D'abord de notre orgueil, de notre suffisance. Les épreuves nous mettent dans la dépendance de Dieu. Tant qu'on n'a pas d'épreuves, on se dit « tout va bien, j'ai pas besoin de Dieu ». C'est pour ceux qui ont des problèmes, ça les rassure. Moi, j'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Même si on va à l'église, on y va, mais on n'a pas vraiment besoin de lui, on le fait juste comme ça. Mais quand on traverse des épreuves, eh bien, à ce moment-là, on commence à comprendre qu'on a besoin d'être sauvé par Dieu. On a besoin d'un sauveur. On a besoin que quelqu'un vienne à notre secours. C'est pour ça qu'on n'a pas recherché les épreuves. Et quand elles viennent, eh bien, paradoxalement, tout va mal pour nous, parce qu'on a des épreuves. Et dans ce tout va mal, il y a quand même quelque chose qui commence à aller bien. Et ce quelque chose qui commence à aller mieux, c'est que nous commençons vraiment à ouvrir notre cœur en vérité à Dieu. Que nous commençons à comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Et si je vous dis ça, c'est que moi, le premier, je l'ai vécu, que je le vis régulièrement, à travers les épreuves que je vis, eh bien, le Seigneur me fait comprendre que je dépends de lui. Évidemment, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'épreuve dans ma vie. On aimerait tous qu'il n'y ait pas d'épreuve. Que ce problème-là, il disparaisse d'un coup, schlac. Mais le Seigneur le permet quand même, parce qu'à travers ça, il va nous ouvrir encore plus à son œuvre, et il nous prépare à l'éternité. Il nous prépare à la vie éternelle, même si c'est à travers le chemin de la croix. Il est en train de préparer notre cœur à la vie éternelle, pour que nous puissions recevoir une éternité de joie. Pour cela, il faut que nous devenions très pauvres, des tout petits, des très pauvres, des gens qui ont perdu peut-être ce à quoi ils tenaient le plus, sauf le Seigneur. Parfois, il faut perdre jusque-là pour être complètement démuni, dire « Seigneur, j'ai plus rien, viens à mon aide ». Et je vous conseille de pleurer régulièrement, c'est bien de pleurer, de pleurer dans votre prière. N'hésitez pas à pleurer, parce que, au travers de nos pleurs, notre prière devient plus authentique. Si vous regardez les évangiles, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent sur le chemin de Jésus. Beaucoup de gens qui s'adressent à lui en pleurant, même en criant. Le psalmiste dit « Un pauvre cri, le Seigneur entend ». Si vous regardez les guérisons dans les évangiles, par exemple la guérison du lépreux, eh bien le lépreux, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en face de Jésus, il est face contre terre, contre lui, et il le supplie. Mais il ne le supplie pas comme ça en récitant sa prière. Il le supplie avec de toutes ses tripes. « Si tu veux, tu peux me purifier. Si tu veux, tu peux tout, Seigneur, tu peux tout. Viens à mon aide. Je crois en toi, je te supplie, je te supplie. » Oui, il faut que ça sorte des tripes. Tant que ça ne sort pas des tripes, ça reste une prière artificielle. Et ça sort des tripes quand on est vraiment dans l'épreuve, parce que là, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur. « Viens à mon aide, Seigneur. Sauve-moi. » Et à ce moment-là, eh bien, Jésus le touche et lui dit « Je le veux, sois guéri. » Parce que le cœur de Jésus est touché, il sent que ce lépreux, sa prière, elle vient des tripes, elle vient du plus profond de lui-même, et que c'est une prière qui est vraie. Pas pour ça que ce lépreux est un saint, ça fait peut-être beaucoup de péchés, mais à ce moment-là, sa prière, elle est vraie. Au moins, il y a un moment de vrai dans sa vie, c'est quand il pose cette prière en face de Jésus. Et il y a plein d'autres cas où on voit des personnes qui supplient le Seigneur, qui crie par exemple l'aveugle qui crie, et puis Bartimée qui crie, et puis il dit « Fils de David, guéris-moi, sauve-moi » et la foule lui dit de se taire, mais il crie de plus belle, et Jésus le fait venir et le guérit. « Que veux-tu que je fasse pour toi? Fais que je voie. » Voilà. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a des moments de grandes angoisses. Moi-même, je suis passé par des angoisses abyssales. Même l'angoisse, à un moment donné, d'avoir l'impression de ne plus exister. Donc, j'étais obligé de m'appuyer sur l'existence de quelqu'un d'autre pour exister. Donc, c'est vraiment une angoisse abyssale. Les angoisses peuvent être très fortes. Mais à travers les angoisses, le Seigneur nous donne un cœur de chair. Il enlève notre cœur de pierre et il nous donne de la compassion pour les autres. Quand on a vécu tout ça, on ne regarde plus la souffrance avec dédain ou indifférence, même si on peut très souvent ne rien faire pour ceux qui souffrent. Quand même, on est touché dans sa chair quand on voit quelqu'un qui souffre, parce qu'on sait ce que c'est. Voilà. Et le psalmiste dit aussi « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. » Quand nous sommes dans la difficulté, dans les souffrances, dans les épreuves, il faut regarder vers Jésus. Il ne faut pas regarder comme Pierre vers la mer. Quand il marche sur la mer est déchaînée. Pierre, il regarde la mer, c'est-à-dire il regarde les épreuves. Donc on regarde nos épreuves, tout ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, on chute, on tombe, on coule. On coule parce qu'on se dit on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Quand je vois la mer, moi je vais couler. Et Pierre, il commence à couler. Et Jésus le prend par la main. Voilà. Mais si Pierre avait continué de regarder Jésus, sans regarder la mer, il n'aurait pas coulé. Dans nos vies, c'est pareil. Si tu regardes Jésus dans les yeux, son visage, tu le contemples sur une icône, sur une image, dans la prière, dans l'intériorité de ton cœur, dans l'adoration du Saint-Sacrement, et à ce moment-là, tu t'aperçois que tu vas recevoir la paix. Tu dégages tes problèmes, tu dégages tes soucis dans la tête et tu reçois la paix. Et tu ressens que cette paix en toi, elle est plus profonde que tous les soucis. Peut-être qu'en sortant de la prière, les angoisses vont revenir, les problèmes vont revenir, mais tu sais qu'il y a cette paix que tu peux retrouver auprès de Jésus, que personne ne peut t'enlever. Dès que tu le regardes, dès que tu commences à le prier, le Seigneur progressivement te redonne la paix. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Voilà, celui qui regarde Jésus, il est illuminé par la lumière du Christ. Son visage devient lumineux. Il n'y a plus d'ombre ni trouble, dans son visage. Et quand nous serons au ciel, bien notre visage sera illuminé par le visage de Jésus, notre visage sera totalement lumineux. Mais déjà sur la terre, comme le visage de Moïse qui rayonnait quand il rencontrait le Seigneur dans la tente de la rencontre, eh bien notre visage rayonne quand nous allons à la rencontre du Christ, quand nous restons devant lui dans la prière, dans une église, chez nous, dans votre chambre, là où vous pouvez prier, eh bien notre visage rayonne de la gloire du Seigneur. Voilà, maintenant je vais vous donner un témoignage que j'ai reçu récemment par mail de Ménaël. Et ce témoignage, ce qui est bien, c'est qu'il il colle bien avec le texte que je viens de méditer avec vous, la parole que Jésus nous donne aujourd'hui. Je n'avais pas vu le rapport, mais tout à l'heure, en voyant ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, ça colle bien, je n'avais pas fait attention. Donc, elle nous parle d'un témoignage, d'une guérison qui a lieu en avril 2018. Donc c'est un témoignage assez développé, vous verrez, mais comme il est beau, je le lis dans son intégralité. J'arrive vers 17h30 à la prière des malades à Saint-Nicolas. Je trouve très difficilement une place assise. Une fois installée, je suis stupéfaite par la ferveur de la foule en train de prier le chapelet, par le caractère multiethnique de l'assemblée. Moi, ce que j'aime bien dans cette assemblée, c'est qu'il y a de fait des gens de beaucoup de pays différents, même si beaucoup sont français, mais c'est beau, je trouve que c'est beau que l'Église, c'est le lieu du rassemblement des nations. Et ici, il y a beaucoup de nations qui sont représentées. Ça, c'est un signe de la catholicité, c'est-à-dire de l'universalité de l'Église. Donc, par le caractère multiethnique de l'Assemblée. Cela me fait chaud au cœur d'être au milieu de cette Assemblée. Je me sens comme dans ma famille. C'est beau. L'Église, c'est une famille. Une Église, c'est une famille. Quand on se sent dans la famille, dans l'Église, bon, on est vraiment entré dans l'Église. On a compris ce qu'est l'Église, c'est une famille spirituelle. Je prie le chapelet et je perçois la force de cette prière qui me calme immédiatement. Je viens déposer mes problèmes. Catholique pratiquante, engagée pendant 7 ans dans la préparation au mariage au sein de mon ancienne paroisse et actuellement en train de divorcer avec un divorce conflictuel. Voilà, pendant 7 ans, elle a aidé les autres à se préparer au mariage et elle se retrouve avec un divorce, probablement qu'elle n'a absolument pas désiré. Et donc pour elle, c'est vraiment terrible. Pendant 7 ans, elle a aidé les autres à se marier et elle se trouve maintenant en train de divorcer. Quelle épreuve. D'immenses soucis financiers qui risquent de me faire plonger dans le surendettement à vie. Je sors d'un arrêt de travail d'un peu plus d'un mois pour dépression. J'avais refusé de prendre des médicaments chimiques, je m'étais tourné vers des traitements à base de plantes. Bon, ça c'est son choix, c'est un choix personnel, j'ai pas rien à dire là-dessus. Et mon état de santé est encore très fragile. La prière des malades commence avec des chants joyeux qui me réconfortent, qui me font aussi pleurer. J'ai une grosse goule et douleur à la gorge, je dépose ici mon fardeau physique et psychique. Lorsque le Saint-Sacrement passe auprès de moi, je le contemple de tout mon être, puis je me sens bizarre. Je n'ai jamais vu un tel Saint-Sacrement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Fatigué, je m'assois rapidement, je poursuis ma prière pour moi-même, et également pour ma maman, malade depuis très longtemps. Puis une parole de connaissance est prononcée. Une personne souffrant d'une dépression était guérie en gardant le Saint-Sacrement. Elle a ressenti quelque chose de très fort à ce moment-là. Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas moi. Ma dépression ne datait pas de longues années, mais paraissait légère. Il y avait sûrement une personne qui avait davantage besoin de guérir que moi. C'était elle qui était guérie. Je me suis mise à prier pour cette personne et à remercier le Seigneur pour sa guérison. C'est beau ça. Quand on dit une parole, merci Seigneur pour cette guérison, au lieu de dire Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Merci pour cette personne. Ensuite, une autre parole de connaissance s'est prononcée. Une personne est en train de recevoir le Saint-Esprit dans tout son corps. Elle ressent des frissonnements et une grande douceur l'enveloppe. À ce moment-là, je me dis que c'est peut-être moi. Je me sens traversé par une immense vague qui parcourt mon corps 3 fois et qui me réconforte. Je me sens aimé, régénéré de l'intérieur. Une autre parole de connaissance est prononcée. Je vois des fusils avec des fleurs au bout des fusils. Le Seigneur demande aux personnes qui ressentent de la rancune de la laisser tomber et de laisser fleurir l'amour et le pardon. Cela concerne plusieurs personnes dans l'Assemblée. Je me sens directement concerné par cette parole et décide d'apaiser au maximum les relations avec mon ex-mari. Une parole de connaissance relative à la confession est prononcée. Je vois beaucoup de cascades, grandes, multiples, beaucoup de gens qui ne se sont pas confessés depuis longtemps. Allez vous confesser pour laver vos péchés. Cette parole me redonne l'envie de me confesser car je ne suis pas allé depuis longtemps. En sortant de cette église, je ressens à nouveau un renouveau intérieur. Je ressens un renouveau intérieur et une grande force. Je ne crains rien. Dans la soirée, je ressens une joie indescriptible. Je passe une nuit avec un sommeil très profond et le lendemain matin, boum, tout s'éclaire. Dans les secondes qui suivent mon réveil, je vois le regard de Jésus et je comprends que c'est ce regard que j'ai vu dans le Saint-Sacrement. Puis, environ 2 minutes après, je ressens comme une main qui ôte un énorme casque posé sur mon visage et ma tête et je vois la vie légère, légère, légère. Je souris et j'ai le sentiment de redécouvrir le monde avec un œil neuf et joyeux. Une chanson du groupe Glorious arrive immédiatement dans ma tête. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. Je me mets à chanter cette chanson toute la matinée et prends conscience de la guérison de ma dépression et je me rends compte qu'elle n'était pas si légère que cela, tant le fossé est immense entre mon état d'esprit de la veille et celui du matin du 13 avril. Je décide de revenir le prochain jeudi à la prière des malades car mon emploi du temps me le permet. J'arrive cette fois un peu plus tôt, m'installe à peu près au même endroit que la dernière fois. À nouveau, je me sens uni à la foule en prière. Je viens remercier le Seigneur pour la guérison qu'il m'a donnée. Voilà, c'est beau d'aller remercier le Seigneur. Comme parmi les 10 lépreux, il y en a un qui est revenu remercier Jésus. Les 9 autres ne l'ont pas fait. Une parole de connaissance est prononcée. Une personne traverse une grande épreuve dans sa vie. Le Seigneur ne peut pas la lui enlever, mais il lui apporte la paix. À ce moment-là, je me sens dans une paix indescriptible, en sécurité et confiante dans l'avenir. Peu m'importe les événements, mon âme est insaisissable et Dieu sera toujours à mes côtés. Je le remercie pour toutes ses grâces reçues et pour tous les signes qu'il m'envoie de sa présence. Alors, ensuite, elle remercie Michaela qui l'a aidé à trouver la prière des malades, la communauté d'Emmanuel et tous les bénévoles qui œuvrent à la prière des malades. Termine par « Merci Seigneur pour tout ce que tu m'apportes chaque jour. Tu es lumière, amour, miséricorde, béni soit ton Saint. » Voilà. Merci Gunaël d'avoir fait un témoignage, un beau témoignage pour montrer tout ce que tu as vécu. Voilà maintenant d'autres témoignages plus courts. Aline est venue nous témoigner qu'elle a reçu 3 guérisons à la prière des malades. Elle a été guérie d'acouphènes suite à une parole de connaissance donnée le 10 mai 2017. La guérison a été progressive. Le 24 mai 2018, elle a été guérie d'une boule qu'elle avait au sein droit qui a disparu d'un coup, ce que l'examen médical a confirmé. Le 14 juin 2018, elle a été guérie d'une bactérie à l'intestin qui ne voulait pas partir malgré les médicaments. Le 9 novembre 2017, il y a eu une parole de connaissance annonçant qu'un homme ayant des obsessions sexuelles, allait être guéri. Un homme dont je ne donnerai pas le nom, ni même le prénom, a entendu cette parole et a constaté que le lendemain, il ne regardait plus les femmes de manière malsaine dans le métro. Son obsession sexuelle était tellement forte qu'il avait peur de lui-même, peur de faire une bêtise, car il avait toujours une médaille dans sa poche pour implorer la protection du Seigneur quand il avait ses tentations. Il est très ému par cette guérison et se demande comment le Seigneur a pu porter son regard sur lui. Il a maintenant un grand plaisir à louer Dieu. Une femme a prié de manière insistante pour la conversion de son mari, à Saint-Nicolas-des-Champs, à la prière des malades. Elle a été exaucée. Son mari, qui n'allait plus à la messe, s'est confessé et il est revenu à la messe. Un homme de la Guadeloupe, de passage à Paris, est venu à la prière des malades. Pendant la prière, il a ressenti de la chaleur dans son genou et depuis, il ne souffre plus de son genou qui va beaucoup mieux. Michel, mariée depuis 13 ans, n'arrivait pas à avoir d'enfant avec son mari. Elle est venue en octobre 2017 à la prière des malades. Une parole a annoncé qu'une femme mariée qui voulait avoir un enfant n'y arrivait pas et qu'elle aurait... Pardon, qui voulait avoir un enfant qui n'y arrivait pas aura un enfant d'ici un an. Bien, le fils de Michel est né le 10 août 2018, il a été conçu naturellement. Merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour tout ce que tu fais dans cette prière, tout ton amour que tu déverses sur cette assemblée. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de continuer ton œuvre pour chacun d'entre nous, mais aussi pour tous ceux pour qui nous sommes venus prier, car tu peux tout, Jésus. Nous avons confiance en toi. Amen.